Bonjour à tous. Merci, Élisée, pour ce temps de présidence où tu nous as rappelé l'importance de louer, de rencontrer le Seigneur personnellement avec notre cœur, non pas avec l'apparence. Et c'est dans la continuité que nous voulons. Enfin, j'aimerais vous partager une parole. En fait, ma prédication de ce matin concernera sur le livre de Malachie. Vous savez, le Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Ce livre est fait seulement en 4 chapitres, donc c'est un court livre, et que vous pourriez approfondir chez vous. Je vais juste peut-être apporter un message en forme d'étude biblique, mais que ça nous concerne à tous, parce que même si c'est une parole de l'Ancien Testament, c'est toujours valable dans le sens que le Seigneur aussi peut encore parler aujourd'hui à travers l'enseignement donné à cette époque-là. Au XIXe siècle, pas mal de scientifiques ont fait pas mal d'expériences pour étudier le système nerveux. Et vers la fin du XIXe siècle, je connaissais un petit peu cette histoire. Pas mal de personnes, surtout à l'Institut John Hopkins, qui ont fait une expérience sur une grenouille, pour voir un peu leurs réflexes. Ils ont vu qu'une grenouille vivante peut en fait être bouillie sans qu'elle bouge, si l'eau est chauffée assez lentement. Et ils ont fait augmenter la température 0,002 Celsius par seconde, et la grenouille a été retrouvée morte après 2h30 sans avoir bougé. Et puis, ensuite, ils ont mis la grenouille dans de l'eau chaude au-dessus de 25 degrés. Et là, la grenouille a toujours essayé de s'en échapper. Cette expérience pourrait nous parler dans le sens que nous, souvent, on vit dans le monde, c'est vrai, mais on n'est pas du monde. C'est ce que le Seigneur nous dit. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais par contre, le problème, c'est que en vivant dans le monde, on s'y fait petit à petit. On s'adapte. On voit, même on s'intègre avec... avec les traditions, enfin avec les habitudes de ce monde. Si on ne se prend pas garde, on peut se laisser aller dans le confort aussi. Et dans ce confort, on peut connaître un certain déclin spirituel. Déjà, on est souvent habitué à nos conforts personnels. D'ailleurs, même ce matin aussi, vous êtes dans votre confort, n'est-ce pas? Vous êtes assis à droite, vous. Vous êtes assis à gauche, vous n'êtes presque jamais allé par là, ni par là non plus. Hein, pourquoi? Parce qu'on se sent bien. Hein. On cherche toujours notre propre confort, non seulement pour le choix de notre place, mais aussi dans la vie personnelle. Et une fois que nous sommes bien installés, on ne veut pas justement... dans le confort, on a du mal aussi à rechercher le Seigneur. En tout cas, pour éviter ce genre de déclin spirituel, je ne vous dis pas que vous êtes dans le déclin spirituel, attention, il ne faut pas comprendre ce que je ne vous ai pas dit. Pour éviter ce déclin spirituel, si on surmonte en tout cas ce déclin spirituel, on appelle ça un réveil. Ou encore, on peut dire ça comme... avec cette phrase, le retour à l'éternel. Ce retour à l'éternel est le thème de ce matin. D'ailleurs, dans Ésaïe 31, il est dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Je disais que le réveil est le retour à l'essentiel, à la case départ, une remise aux normes. Dans Jacques chapitre 4, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'était le thème du cours alpha du vendredi dernier. Voilà, donc, c'est dans cette introduction que j'aimerais vous parler de ce livre de Malachie, Alors, vous savez que le Malachie a été écrit à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était un prophète, c'était le dernier prophète qui a parlé de la part de Dieu au peuple de Dieu. Et la situation de l'époque était un peu compliquée parce que les Israélites déjà vivaient dans une certaine domination de l'Empire. Ils sont revenus dans le pays, avant ils étaient dans le diaspora. Et là, pas mal de personnes sont revenues dans leur pays pour reconstruire le temple, pour le renouveau spirituel, mais cependant, quand même, d'après le livre de Malachie, ce renouveau, cet enthousiasme s'est stoppé. Pourquoi ? Parce que ils ont connu une famine, ils ont connu aussi des invasions de sauterelles. Socialement, économiquement, religieusement, ils connaissaient vraiment des difficultés. Et en plus de cela, ils ont connu aussi des corruptions, etc. Et puis, au niveau éthique, ils étaient loin. Ils étaient loin d'être justes aux yeux de Dieu. Et donc, à travers le livre de Malachie, le prophète nous décrit certaines situations du peuple de Dieu. On pourrait dire qu'il y a à peu près 6 oracles dans ce livre. C'est par exemple, le premier oracle, c'est les 5 premiers versets du premier chapitre sur l'élection d'Israël, en disant que pourquoi vous doutez l'élection de Dieu, pourquoi vous doutez de l'amour de Dieu. Ensuite, le deuxième oracle concerne sur le culte, le formalisme. Ce matin, on a parlé pas mal de choses. Et puis, troisième oracle, c'est au chapitre 2, à partir du verset 10, sur le mariage mixte. Hein, vous savez, les gens, à cette époque-là, se mariaient avec des étrangers qui adoraient d'autres dieux. Et par ce mariage mixte, justement, vous savez, il est plus facile d'être tiré vers le bas que de tirer vers le haut. Vous êtes d'accord? Oui. 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 C'est beaucoup plus simple, enfin, plus facile de tomber dans le ténèbre que de monter vers le Seigneur. Et donc, par ce mariage mixte, justement, Malachie dénonce leurs pratiques. Et d'ailleurs, non seulement il y avait des mariages mixtes, mais aussi ils se divorçaient facilement. D'après l'Ancien Testament, vous savez que d'après les règles données par Moïse, ils pouvaient justement, avec un certain papier, procéder au divorce facilement, que Jésus a modifié par la suite. Et donc, par cupidité, par diverses circonstances, les gens se divorçaient facilement. On pourrait dire que rien de nouveau sous le soleil. Même aujourd'hui, ça se passe pareillement. Et puis, quatrième oracle, le peuple doute de la justice de Dieu. Pourquoi douter de la justice de Dieu? C'est vrai que les circonstances sont difficiles, tout va mal, alors que Dieu nous avait promis certaines choses, des belles promesses, et on ne voit pas réaliser toutes ces alliances, enfin, les promesses promises par les prophètes. Donc ils sont découragés et puis même ils voient les méchants prospérer. Donc ils se disent, mais pourquoi? Eux, ils ne croient pas en Dieu et puis ils prospèrent et puis nous, on est pourquoi dans la galère? Donc ils ne comprennent pas et ils disent, mais Dieu, est-ce que tu es vraiment un Dieu juste? Ils proclament ainsi. Et puis, cinquièmement, c'était sur... sur la piété, sur le cinquièmement, c'est à peu près, selon aussi à la première partie, nous avons vu aussi, nous maintenons l'apparence de la piété tout en étant dans le péché. Hein? Et puis, le sixième oracle, pareil, en rapport aussi avec la justice de Dieu, sixième oracle, à partir du verset 24, c'est en voyant de la prospérité des méchants, ils affirment des contre-vérités blasphématoires. Voilà donc 6 oracles assez intéressants. Donc, en tout cas, je vous invite à relire le Malachie, peut-être durant cette semaine, qui nous ferait du bien. Premier oracle, pourquoi douter de l'amour de Dieu? Alors que Dieu nous aime. Verset 2, il est dit, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? » Dieu nous dit, « Je t'aime. » Et là, comme si aujourd'hui, il dit, « Mais Seigneur, comment ça tu m'aimes? Regarde ma situation. Regarde ma situation. Est-ce que c'est la preuve de ton amour ?» Ils se plaignent, ou plutôt ils sont restés insensibles à l'amour de Dieu. Ils ne voient pas le plan de Dieu. Dieu dit, je t'aime, mais je demande à voir. C'est ça en fait, ce que disent les peuples. D'ailleurs, leur cœur est devenu vraiment endurci. Ils demandent que Dieu leur accorde plein de bénédictions, mais par contre, ils oublient, qu'est-ce qu'ils ont oublié, le peuple? Ils ont oublié leurs devoirs, leurs responsabilités, leurs obligations. Ils ont cette mentalité de consommateur. C'est comme si Dieu était un prestataire du service. Je fais quelque chose, je fais même pas quelque chose, je suis un peuple de Dieu, donc j'attends que Dieu assure sa part de responsabilité, qu'il me donne sa bénédiction. Et puis si Dieu ne fait rien, ça veut dire que ce Dieu ne m'aime pas, ou c'est un Dieu méchant. C'est vrai que la foi peut avoir un moment de doute, mais nous savons que Dieu a déjà tout accompli. Il a montré son amour par l'envoi de son Fils Jésus, et que malgré les moments de difficulté, nous pouvons tenir avec cette vérité que Dieu accordera sa bénédiction et qu'il vaincra tout le mal qui règne dans ce monde. Deuxième point, c'est on fait trop de culte par formalisme et on prend la personne de Dieu à la légère. On prend Dieu à la légère. Au verset 6, un fils honore son fils et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Est-ce que nous craignons vraiment Dieu? Est-ce que nous honorons notre père? Dit l'Éternel des armées, sacrificateur, qui méprisait mon nom? Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Les gens faisaient pas mal de sacrifices à Dieu. Mais Dieu, comme nous venons de voir ce matin, regarde le cœur, pas la forme. Pas la forme. Regarde l'obéissance, pas les sacrifices. Il n'y avait aucun respect vis-à-vis de Dieu. Il faisait des cultes formels, mais ça ne plaisait pas à Dieu. Il disait, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Voilà, donc Dieu avait déjà prescrit à l'époque de l'Ancien Testament une certaine manière d'offrir les sacrifices et le peuple de Dieu n'avait même pas respecté. Ils ont offert des animaux qui étaient impurs. Ils ont offert des animaux qui ne sont pas parfaits. Or, tous ces rituels de l'Ancien Testament, c'était pourquoi? C'était une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ pour le péché, pour le pardon de nos péchés, de l'univers. Cela préfigurait que notre Seigneur Jésus devait être sans défaut et parfait. Et ils n'ont pas respecté cet engagement. Ils sous-estimaient l'importance des sacrifices. Ils banalisaient même le culte. Je suis très content que Élisée nous a vraiment invités à réfléchir. Pourquoi nous venons ce matin au culte? Pourquoi? Par habitude? Parce que, je ne sais pas, parce que votre mari est pasteur? Ou parce que les enfants sont obligés? Les enfants, ils me disent, oh, papa, je suis obligé vraiment d'y aller ce matin, je suis fatigué. Oui, si, si, tant que vous êtes chez moi, vous êtes obligé. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes venu à l'église? Ou parce que, ce matin nous avons vu, parce que Dieu cherche des adorateurs qui le louent en esprit et en vérité. Parce que nous l'aimons, parce que nous voulons le rencontrer, parce que nous avons besoin de son réconfort, d'entendre sa parole, parce que Dieu est vivant. Parce que c'est lui, mon créateur, et que c'est lui qui est aussi la solution de tous mes problèmes. Nous pouvons venir à l'église, non pas seulement pour demander quelque chose, mais parce que, enfin, oui, pour demander aussi, puisque Dieu est un Dieu qui pourvoit aussi à nos besoins. Mais nous pouvons aussi venir auprès de Dieu de différentes manières, avec des différentes raisons. En tout cas, ici, le peuple de Dieu offrait des sacrifices indignement. Vraiment, ils banalisaient le culte. Ils ont le culot de demander la bénédiction de Dieu alors qu'ils sont complètement dans le péché. Et là, on voit en tout cas la pédagogie de Dieu. Il prévient avant de sanctionner. Il prévient que voilà ce que vous avez fait. Attention, attention. Dieu nous prévient aussi parfois. Vous savez que Dieu est lent à la colère, hein, riche en bonté. Ce Dieu qui est miséricordieux, il nous prévient aussi par des différentes manières. Mais parfois, voilà, malgré les avertissements de Dieu, ben, on ne se donne pas de limites. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Et d'ailleurs, l'intervention de Dieu à notre égard, lorsque nous sommes dans le péché, est aussi une bénédiction, puisque ça nous permet de réfléchir sur notre état spirituel et revenir auprès de Dieu. Troisième oracle parle donc sur le mariage mixte, le divorce par cupidité. Et là, en parlant de divorce, en parlant de mariage mixte, Dieu qui est fidèle, constant, il attend la même attitude de ses enfants en fait. Dieu qui est fidèle, il aimerait qu'on soit aussi fidèle à son égard. Parce que à l'époque donc, les gens se mariaient avec d'autres peuples qui louaient, adoraient d'autres dieux. Et par ce mariage mixte, le peuple de Dieu pouvait s'éloigner de Dieu. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. D'un Dieu étranger. Nous voyons aussi beaucoup de choses dans ce monde aussi. Et d'ailleurs, il y a tellement de choses occultes. Je reprends un peu mes phrases. Un des signes du déclin spirituel est de ne pas être choqué par ce qui est choquant. Si vous n'êtes plus choqué par des choses que Dieu a horreur, là, c'est aussi un signe de mon déclin spirituel. Je reviens encore à l'exemple de la grenouille, hein, qui, dans de l'eau tiède, et en augmentant la température, timidement, voilà, il ne pense pas à s'enfuir, et finalement il meurt, hein, bouilli. Mais on peut aussi tomber dans ce piège lorsque nous faisons des compromis avec le monde. Et comme cette grenouille, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Parce qu'on fait petit à petit des compromis. Il faut revenir à la case départ. Et puis, dans ce troisième point, Malachie aussi dénonce les divorces. Et les gens répudiaient leur première épouse qui ont vieilli. Elle est vieille maintenant, j'aimerais une jeune fille, donc ils se divorçaient facilement. Voilà, à l'époque. Et alors que, voilà, cette répudiation a été dénoncée par Néhémie aussi. Rien de nouveau sous le soleil, ça se passe aussi de nos jours. Le peuple de Dieu, après avoir agi ainsi, il se demande, mais pourquoi Dieu n'agit pas en ma faveur? En tout cas, Dieu, à travers ce troisième oracle, veut nous inviter, en tout cas, à être fidèles davantage à notre Dieu, à ne pas faire de compromis avec le monde. Quatrième point, quatrième oracle, concerne sur la justice de Dieu. Le peuple de Dieu se disait, mais pourquoi tu punis pas les méchants? Pourquoi tu permets l'injustice régner? Parce qu'ils étaient sous l'esclavage par des gens qui étaient idolâtres, donc ils ne comprenaient pas. Et d'ailleurs, comme je vous avais dit tout à l'heure, que les méchants prospéraient, ils ne comprenaient pas. Mais Dieu leur dit, c'est vrai que les circonstances, la situation peuvent être difficiles, mais gardez de l'espérance. Ne regardez pas seulement le présent, mais aussi le futur. Verset 1, il dit, voici j'enverrai mon messager, chapitre 3, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Là on parle de Jean-Baptiste. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance, c'est-à-dire Jésus, que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les adultères, etc. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Le Seigneur nous dit, voilà, malgré les circonstances difficiles, ne tombez pas dans les ruses du diable. C'est vrai que le diable rôde comme un lion rugissant pour nous faire tomber, mais ne tombez pas dans ce piège. Soyez éveillés, réveillez-vous et revenez à moi. Cinquième point, il faut maintenir aussi, non seulement, il ne faut pas maintenir l'apparence de la piété en étant dans le péché. Alors que vous êtes dans le péché, comment vous pouvez être dans la piété de Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? dans les dîmes, dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez. La nation toute entière. Dieu aimerait qu'on soit en tout cas beaucoup plus sincère dans notre rencontre avec le Seigneur. Il ne veut pas qu'on soit dans le légalisme, mais il cherche en tout cas des adorateurs qui le louent en esprit et en vérité. Sixième point, oui, de nouveau, il voit les méchants qui prospèrent. Il pense encore, en lien avec le point 4, il pense encore que Dieu est injuste, mais Dieu nous dit, attendez au jour de sa justice. Il y aura un jour, il y aura le jour de jugement, ce jour de jugement, un jour, ça va arriver. Et donc, en pensant avec ce jour de jugement, revenez à moi, encore une fois. Revenez à moi. Si nous persévérons, d'après Timothée, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi il nous reniera. Oui, Dieu juge un jour. Dieu juge un jour. Et vraiment, revoyons un peu notre comportement. Revoyons un peu notre comportement. Que nous puissions être instruits par le Seigneur. Dans Matthieu 6, il est dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Voilà encore un avertissement à s'éloigner des habitudes du monde, à s'éloigner du ténèbre, à s'éloigner avec le péché. Hein? Dans Proverbe, il est dit, dans Proverbe 4:4, il m'instruisait alors, il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Que le Seigneur nous bénisse et que peut-être que si vous avez du temps, relisez en tout cas les Malachies cette semaine pour revoir tous ces points intéressants où Dieu vraiment nous rappelle à revenir vers lui et que nous puissions vraiment vivre selon les commandements de Dieu, selon ses préceptes. Et que nous puissions aussi expérimenter sa présence personnellement cette semaine. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, si on ne prend pas garde, on peut se laisser aller dans le déclin spirituel. Aide-nous vraiment à revoir. Si nous sommes dans la sanctification, ou si nous sommes, nous nous éloignons de toi de plus en plus. Tu dis, Seigneur, de revenir auprès de toi. C'est vrai que c'est toi qui as la paix, l'amour, la joie. C'est toi, Seigneur, qui as tout, toutes les solutions de nos maux. Et je te prie vraiment, Seigneur, ce matin, de nous parler davantage encore de ce que nous devons faire pour revenir vers toi. Merci encore pour la parole de Malachie, qui a parlé aussi 400 ans avant Jésus-Christ pour faire revenir son peuple et pour donner aussi de l'espérance que le messager, de l'Alliance allait venir. Et c'est vrai que 2000 ans après, ce Jésus est venu, c'est vrai. Nous connaissons cette vérité et nous nous réjouissons de ce que ton Fils a pu accomplir sur cette terre pour nous, pour le pardon du péché de l'univers. Maintenant, Seigneur, nous voulons vraiment porter cette confiance en Jésus-Christ pour aller de l'avant. Que ton esprit vraiment nous remplit. Que ton esprit, Seigneur, nous aide à aller de l'avant. Que nous puissions vraiment vivre cette vie de sanctification que Malachie a toujours voulu transmettre au peuple de Dieu. Seigneur, oui, nous avons plus de vérité que ces gens de l'époque. Et parce que la croix a été portée et que Jésus est ressuscité et qu'il est maintenant auprès de toi, à la droite du Père. Et c'est une vérité qui nous rassure et que nous savons aussi que ce Dieu qui est ressuscité reviendra aussi un jour. Et nous voulons vraiment aussi avoir cette espérance à ce Dieu qui va revenir pour aussi juger. En attendant, aide-nous vraiment à être prêts pour ce jour J, le jour où tu reviendras, le jour où tu vas aussi apporter, enfin juger le monde. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par toi Seigneur. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen.